Chapitre 32. La chasse au trésor, la voix dans les arbres. En partie à cause de l'influence déprimante de cette alerte, en partie pour laisser Silver et les hommes malades se reposer, tout le monde s'est assis dès que nous avons atteint le sommet de la pente. Le plateau s'inclinait un peu vers l'ouest, si bien que depuis le point où nous étions arrêtés, la vue portait loin de chaque côté. Devant nous, au-dessus des arbres, nous avions le cap des bois que bordaient les vagues. Derrière nous, nous dominions le mouillage de l'îlot du squelette, et nous découvrions aussi, au-delà de la lagune et des basses terres orientales, une vaste étendue de haute mer à l'est. À pic au-dessus de nous se dressait la longue vue, avec ici des pins isolés, là de noirs précipices. Il n'y avait aucun bruit, sauf celui lointain des brisants qui nous parvenaient de tout le pourtour de l'île et la stridulation d'innombrables insectes dans les buissons. Pas un homme, pas une voile sur la mer. L'étendue de la vue aggravait le sentiment de solitude. Silver, une fois assis, a pris des repères avec sa boussole. « Voilà trois grands arbres », a-t-il dit, à peu près alignés avec l'îlot du squelette. « Le replat de la longue vue, je suppose que c'est cet endroit-là en contrebas. Ce sera un jeu d'enfant de le trouver maintenant. J'ai comme dans l'idée de dîner d'abord. »« Je me sens pas d'attaque », a grogné Morgan. « Pensez à Flint, ça m'a achevé. »« Eh bien, fiston, tu peux remercier ta bonne étoile qu'il est mort », a dit Silver. « C'était un diable horrible à voir », a dit un troisième marin en frissonnant. « Ce bleu sur son visage aussi. »« C'est comme ça que le rhum l'a emporté », a ajouté Mary. « Bleu. C'est vrai, je suis d'accord qu'il était bleu, c'est bien le mot. » Depuis qu'ils avaient trouvé le squelette et qu'ils s'étaient mis à repenser à Flint, ils parlaient de plus en plus bas. Ils en étaient presque arrivés à murmurer, de sorte que leur discussion troublait à peine le silence des bois. Brusquement, au milieu des arbres devant nous, une petite voix fine et chevrotante a entonné l'air et les paroles bien connues. À 15 sur le coffre du mort, yo-ho-ho, et une bouteille de rhum. Je n'ai jamais vu personne accuser le coup comme les pirates. La couleur a disparu de leurs 6 visages comme par enchantement. Certains ont bondi sur leurs pieds, d'autres se sont cramponnés à leurs voisins. Morgan s'est jeté à 4 pattes. « C'est Flint, nom de !» a crié Mary. La chanson s'est interrompue aussi brusquement qu'elle avait commencé. Étouffée, aurait-on dit, au milieu d'une note, comme si quelqu'un avait posé la main sur la bouche du chanteur. Comme elle avait traversé les cimes verdoyantes des arbres dans une atmosphère pure et ensoleillée, je l'avais trouvée aérienne et douce. Son effet sur mes compagnons était d'autant plus étrange. « Allons, ça marche pas !» a dit Silver en luttant avec ses lèvres aux couleurs de cendre pour les forcer à laisser passer les mots. « Debout les gars, parez à continuer !» Ça commence bizarrement et j'arrive pas à reconnaître la voix, mais c'est quelqu'un qui se paie notre fiole, quelqu'un en chair et en os, pouvez me croire. » Le courage lui était revenu en parlant et un peu de couleur sur son visage en même temps. Déjà, les autres prêtaient l'oreille à cet encouragement et se reprenaient un peu quand la même voix cassée s'est fait entendre à nouveau. Pas en chantant cette fois, mais dans une sorte d'appel faible et lointain qui se perdait en écho encore plus faible dans les ravins de la longue vue. « Darby McGraw » a-t-elle gémi. C'est le mot qui décrit le mieux le son. « Darby McGraw, Darby McGraw !» et encore, puis en montant et avec un juron que je mets, « Va me chercher le rhum, Darby McGraw !» Les boucaniers sont restés aussi immobiles que s'ils leur avaient poussé des racines. Les yeux leur sortaient de la tête. Longtemps après que la voix s'est tue, ils sont restés à regarder droit devant eux, en proie à la terreur. « C'est réglé !» a dit l'un d'eux. « Filons d'ici !» Ça a été ses derniers mots à Jamie Morgan. Les derniers avant de casser sa pipe. Dick avait sorti sa Bible et priait avec volubilité. Il avait été bien élevé, ce Dick, avant de prendre la mer et d'y faire de mauvaises rencontres. Silver, pourtant, n'était pas vaincu. J'entendais ses dents claquer dans sa bouche, mais il n'avait pas encore capitulé. « Personne dans cette île a jamais entendu parler de Darby, » a-t-il marmonné. Personne sauf nous autres ici. Et puis, au prix d'un gros effort, les copains, a-t-il dit, je suis venu pour prendre le magot, et personne m'en empêchera, ni un homme, ni le diable. J'avais pas peur de Flint vivant, et Miltonnerre, je lui ferai face mort. Il y a 700 000 livres à un quart de mille d'ici. Quand est-ce qu'un gentilhomme de fortune a montré la poupe à autant d'argent à cause d'un vieil ivrogne de marin qui avait la trogne bleue et qui est mort en plus? Aucun signe n'a montré que les autres reprenaient courage. Au contraire, ils ont semblé encore plus effrayés qu'avant, à cause de l'irrévérence du propos. « Arrête là, John !» a dit Mary. « Te mets pas un esprit à dos !» Les autres étaient trop terrifiés pour parler. Ils seraient partis en courant chacun de son côté s'ils avaient osé. Mais la peur les faisait rester ensemble et près de John, comme si son audace les aidait. Lui, de son côté, avait bien surmonté son moment de faiblesse. Un esprit ? Ouais, peut-être. Mais il y a une chose qui n'est pas claire. Il y avait un écho. Eh bien, jamais personne n'a vu un esprit avec une ombre, pas vrai ? Alors comment ça se fait qu'il y avait un écho ? J'aimerais bien savoir. C'est pas naturel, pour sûr. L'argument m'a semblé faible. Mais on ne peut jamais prévoir ce qui touchera les gens superstitieux. À ma surprise, George Mary s'est trouvé soulagé. Oh, c'est pourtant vrai, Tilly. T'as une tête sur les épaules, John, il n'y a pas d'erreur. Sur le pont, les gars, l'équipage avait la mauvaise tactique, je crois. En y repensant mieux, c'était comme la voix de Flint, je vous l'accorde. Mais elle n'était pas aussi sonore, après tout. C'était plus comme la voix d'un autre, c'était plus... Ben Gunn, mille tonnerres, a rugi Silver. Ouais, c'était bien ça, a crié Morgan en se mettant droit sur ses genoux. C'était bien Ben Gunn. Ça change pas grand-chose, si, a demandé Dick. Ben Gunn n'est pas plus là en chair et en os que Flint. Les autres ont accueilli la remarque avec dédain. Personne se soucie de Ben Gunn, a crié Mary. Mort ou vivant, personne s'en soucie de lui. La façon dont ils ont repris courage en même temps que les visages retrouvaient des couleurs a été extraordinaire. Ils ont recommencé à bavarder tout en prêtant l'oreille de temps en temps. Peu après, n'entendant pas de nouveaux bruits, ils ont remis leurs outils sur l'épaule et sont repartis. Mary marchait seule, devant, avec la boussole de Silver, pour vérifier qu'il restait dans l'axe de l'îlot du squelette. Il avait dit vrai, vivant ou mort, personne ne se souciait de Ben Gunn. Seul Dick, sa Bible à la main, a continué de jeter des coups d'œil inquiets autour de lui en marchant. Mais il n'en rencontrait aucune sympathie, et Silver s'est même moqué de ses précautions. « Je t'avais prévenu, a-t-il dit, t'as gâté ta Bible. Si elle est même plus bonne pour que tu jures dessus, combien tu crois qu'un esprit en donnerait ? Pas ça !» Et il a fait claquer ses gros doigts en s'arrêtant un moment sur sa béquille. Il n'y avait plus rien à faire pour réconforter Dick. Il était évident qu'il était en train de tomber malade. La fièvre, que le docteur Livesey avait annoncée, attisée par la chaleur, la fatigue et cette dernière alerte, elle montait rapidement. Marcher à découvert sur la crête était agréable. Notre chemin descendait légèrement, car comme je l'ai dit, le plateau s'inclinait vers l'ouest. Les pins, grands et petits, étaient très espacés. Entre les touffes de muscadiers et d'azalées, de vastes espaces vides grillaient sous le soleil. En traversant l'île vers le nord-ouest, comme nous le faisions, nous nous approchions de plus en plus de la longue vue, et en même temps la vue s'élargissait sur la baie occidentale, où j'avais été ballottée, tout tremblant dans le coracle. Nous avons atteint le premier des trois grands arbres. Sa position prouvait que ce n'était pas le bon. De même pour le deuxième. Émergeant du sous-bois, le troisième montait à peu près à 200 pieds dans les airs, un géant végétal avec un tronc rouge aussi gros qu'un cottage et une ombre aussi grande qu'une compagnie aurait pu y manœuvrer. Il était visible depuis très loin en mer, tant à l'est qu'à l'ouest, et aurait pu figurer comme repère sur une carte marine. Ce n'était cependant pas sa taille qui pour l'heure impressionnait mes compagnons. C'était de savoir que 700 000 livres en or étaient enterrés quelque part dans son ombre. Penser à tout cet argent, alors qu'ils s'en approchaient, dissipait leur terreur de naguère. Les yeux brûlaient dans les orbites. Les pas s'accéléraient et se faisaient plus légers. Les esprits étaient tout entiers possédés par cette fortune, cette vie entière d'abondance et de plaisir qui était là à les attendre tous. Silver sautillait sur sa béquille en grognant. Ses narines dilatées tremblaient. Il jurait comme un fou quand les mouches se posaient sur son visage rouge et suant. Il tirait furieusement sur le filin avec lequel il me tenait en laisse et de temps à autre me lançait des regards meurtriers. Il ne prenait certes pas la peine de cacher ses pensées et je pouvais lire en lui comme dans un livre ouvert. La proximité de l'or lui avait fait oublier tout le reste. Sa promesse et l'avertissement du docteur appartenaient tous deux au passé. Je n'en doutais pas, il espérait s'emparer du trésor, trouver l'Hispaniola et y monter à la faveur de la nuit, couper toutes les gorges honnêtes sur l'île et mettre à la voile pour fuir ainsi qu'il en avait d'abord eu l'intention, couvert de crimes et de richesses. Bouleversé comme je l'étais par ces perspectives, j'avais du mal à suivre l'allure rapide des chasseurs de trésors. De temps à autre, je trébuchais. C'était alors que Silver tirait sur la laisse et me lançait ses regards assassins. Dick s'était laissé distancer et désormais venait en dernier en marmottant prières et malédictions, tandis que sa fièvre empirait. Cela ajoutait à ma détresse, et pour couronner le tout, j'étais hantée par la tragédie qui s'était déroulée sur ce même plateau, quand ce boucanier sans foi ni loi, à la figure bleue, lui qui était mort à Savannah en chantant et en réclamant à boire, avait, de ses mains, abattu ses six complices. Ce bosquet si paisible avait dû retentir de cris horribles, pensais-je. En même temps que j'y pensais, Il me semblait les entendre encore. Nous étions parvenus à la lisière du fourré. « Hourra, les gars, tous ensemble !» a crié Mary. Et ceux qui étaient devant se sont mis à courir. Soudain, alors qu'ils n'avaient pas fait 10 pas, nous les avons vus s'arrêter. Un grand cri a jailli. Silver a doublé l'allure en pagayant avec sa béquille comme un possédé. Un instant plus tard, lui et moi étions aussi à l'arrêt. Devant nous, il y avait un grand trou. Il n'était pas très récent car les bords s'étaient écroulés et de l'herbe avait poussé au fond. Dedans, il y avait un manche de pioche cassé en deux et les planches de plusieurs caisses jetées là en vrac. Sur l'une d'elles, j'ai pu lire un nom inscrit au fer rouge. Walrus, le nom du bateau de Flint. Il n'y avait plus aucun doute. La cache avait été trouvée et pillée. Les 700 000 livres s'étaient envolés.